これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Hey, venga.
Le Gai Savoir. Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
Hit me.
À la lecture, Julie Tag.
Et à la réalisation, François Connac.
Tout penseur profond craint plus d'être compris que d'être mal compris, disait Nietzsche. De ce point de vue, il n'avait rien à craindre. On a fait de Nietzsche un anarchiste antisémite, un furieux réactionnaire, un prélude au nazisme et même un chrétien honteux. On a raillé son lyrisme, on s'est moqué de lui. Alors qu'en réalité, Nietzsche pense tout simplement par-delà bien et mal. À tous ceux qui apprennent pour se rassurer, le philosophe rappelle que dans toute volonté de connaître, il entre déjà une goutte de cruauté. Aux pessimistes, il apprend que c'est pas le monde qui est absurde, mais la volonté de lui donner un sens. Et au monocle des gens qui voient le monde en noir et blanc, il substitue l'œil et l'oreille qui permettent de voir et d'entendre les énigmes et le mutisme écrasant des éléments du réel.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
À supposer que la vérité soit femme, n'a-t-on pas lieu de soupçonner que tous les philosophes, pour autant qu'ils furent dogmatiques, n'entendaient pas grand-chose aux femmes, et que l'effroyable sérieux, la gauche insistance avec lesquelles ils se sont jusqu'ici approchés de la vérité, ne furent que des efforts maladroits et mal appropriés pour conquérir justement les faveurs d'une femme?
Alors, Raphaël, que dites-vous de cette analogie entre la vérité et la femme ? C'est assez amusant de la part d'un Nietzsche qu'on veut volontiers misogyne.
Ah oui, misogyne, en un sens, il l'était d'ailleurs. Et je ne suis pas sûr qu'il cesse de l'être à cet instant, vu ce qu'il dit de la vérité, par ailleurs. Le fait de l'associer, de l'assimiler à une femme, ou d'émettre cette hypothèse liminaire de la vérité comme femme, de la comparer à une femme, ne plaide en faveur, apparemment en tout cas, ni des femmes, ni de la vérité, aux yeux de Nietzsche, c'est certain. Mais il y a déjà une première chose à remarquer, c'est que c'est d'abord une façon pour lui, alors certains diraient de réduire, moi j'ai envie de dire d'étendre les grandes préoccupations fondamentales de la philosophie au désir de séduire une femme. Donc il y a une forme de réductionnisme de la part de Nietzsche qui consiste à dire « Ah, vous croyez vous soucier de l'être, en réalité vous courtisez quelque chose, en définitive. Vous n'êtes que des séducteurs, vous faites les malins. » Restons d'abord un instant, un moment.
Sur la préface.
Oui, sur la préface et sur cette analogie de la vérité et de la femme. C'est vraiment une supposition étrange. En fait, qu'est-ce qu'une femme en vérité ? Ou qu'est-ce que la vérité quand la vérité est femme ? Du point de vue de Nietzsche. Et ce qui est amusant ici, c'est qu'il faut puiser dans les clichés d'une misogynie réglementaire pour découvrir l'extrême complexité du rapport que Nietzsche entretient avec la vérité. Bon, à supposer que la vérité soit femme, ça peut vouloir dire, numéro un par exemple, hein, ce sont des interprétations. Il n'y a pas de fait pour Nietzsche, il n'y a que des interprétations. Donc soyons nietzschéens quand nous parlons de Nietzsche. Interprétons cette analogie. Première interprétation possible, première perspective possible sur cette analogie, la vérité est capricieuse. La vérité est volage, c'est bien connu. Les femmes sont capricieuses et volages. La vérité change de goût comme elle change d'amant, comme elle change de vêtement. La vérité s'habille, babille et se déshabille. Si la vérité est femme, alors l'inverse est faux. La femme n'est pas vérité. Et comme l'inverse est faux, comme la femme n'est pas vérité mais mensonge, alors la vérité elle-même n'est pas vérité. La vérité est mensongère. Et ça, c'est une des grandes valeurs ajoutées de Nietzsche. C'est que la vérité est beaucoup plus mensongère que le mensonge lui-même. Car la vérité, c'est un mensonge qui s'ignore. Le mensonge est un mensonge conscient de lui-même. La vérité est un mensonge qui ne se connaît pas. Prenez l'exemple, tiens, pour rester dans le domaine conjugal ou dans le domaine misogyne ou matrimonial ou adultérin, si vous voulez, prenez l'exemple du mari volage, cette fois-ci, qui croit bon de faire à sa femme l'aveu des infidélités qu'il lui a infligées. Alors il lui dit la vérité. Et en général, ce genre d'aveu est précédé d'une déclaration solennelle sur le thème « Entre toi et moi,
Pas de mensonge. On se dit la vérité. Évidemment, la seule vérité que ne dit pas le mari volage, c'est qu'en disant la vérité de ses frasques à sa femme, non seulement il la trahit deux fois, il lui fait une peine double, mais surtout, il dépose sur elle le fardeau de la culpabilité qui est la sienne. La vraie vérité, si j'ose dire, est là. Une vérité qui se présente comme telle sous des allures nobles et mensongère dans la mesure où elle n'assume pas, et c'est tout l'objet de Par de la bien et le mal, puis plus tard de la généalogie de la morale, où elle n'assume pas l'arrière-fond nauséeux, putride, qui lui donne le jour, les mauvaises intentions qui président à l'émergence de la vérité. Nietzsche est totalement antiplatonicien à cet instant. Il est antiplatonicien parce que, d'abord, chez Platon, la vérité sort souvent de la bouche des femmes. En tout cas, c'est le cas dans Le Banquet. Mais Nietzsche est totalement anti-platonicien à cet instant parce qu'il récuse ce qu'il appellera dans Le Crépuscule des idoles une équation exorbitante, celle du vrai, du beau et du bien. Équation qu'il récuse au profit de la généalogie de la morale. La vérité peut naître du mensonge, comme le bien peut naître du mal, si tant est que ces mots aient encore un sens. Et cette intuition nietzschéenne, vous voyez que c'est déjà plus intéressant qu'une simple profession de foi misogyne. Cette intuition nietzschéenne, première interprétation, donc première perspective sur cette analogie, cette intuition nietzschéenne est une intuition que devraient méditer tous les théoriciens du complot, par exemple, qui croient être des bons citoyens, d'excellents citoyens, et chercher la vérité que les puissants nous dérobent, alors que ce sont juste des paranoïaques, ce que Nietzsche permet de pointer. Ou tous les misanthropes de la Terre qui croient qu'en ne mentant jamais, ils ne se trompent pas, comme si Alceste ne se trompait pas, comme si Alceste n'était pas dupe du désir qu'il avait lui-même de ne pas être dupe, par exemple. Donc, première perspective qui permet d'enrichir cette notion de vérité. Deuxième perspective, la vérité est femme, ça veut dire du point de vue de Nietzsche également. Et là, on est dans la biographie, on parlera de sa biographie plus tard, mais un petit peu, quand même. C'est quand même une femme dans la vie de Nietzsche. Il y en a eu au moins une robe à passer dans sa vie. Deuxième perspective, la vérité est femme, c'est-à-dire que la vérité est hors d'atteinte. On ne l'atteint pas. Les seules femmes auxquelles Nietzsche avait véritablement accès, hormis les amis qu'il pouvait avoir comme Malvida, et les maîtresses qu'il n'a pas eues comme Lou, ou les femmes qu'il n'a pas eues, les épouses qu'il n'a pas eues, ou l'épouse qu'il n'a pas épousée, c'est-à-dire Lou Salomé, Nietzsche n'a pas accès aux femmes. La vérité, en cela, ne se touche pas. Elle est à distance, ou plus exactement, elle se dérobe. Elle se dérobe quand on croit la saisir. Donc il y a un rapport de tantale entre les philosophes et la vérité. De fait, Nietzsche ne fait ici que décrire le fait que la vérité est bien souvent présentée par les philosophes comme ce qui n'est pas susceptible d'être atteint. Il y a une critique implicite chez Nietzsche de la nature même du désir que nous avons de la vérité. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la vérité qui est hors d'atteinte, c'est le désir que j'en ai qui la met hors de mon atteinte, hors de ma portée. Et puis il y a une troisième perspective, et celle-là, elle est autrement riche, je crois, et complexe. C'est la perspective ouverte quand on met en miroir cette analogie liminaire de Par de la bien et mal, et un chapitre de Zarathoustra qui s'appelle, ça ne s'invente pas, « Des femmelettes jeunes et vieilles ».
Pourquoi te glisses-tu furtivement dans le crépuscule, Zarathoustra ? Et que caches-tu avec tant de soie sous ton manteau ? Est-ce un trésor que l'on t'a donné ? Ou bien un enfant qui t'est né ? Ou vas-tu maintenant toi-même par les sentiers des voleurs, toi, l'ami des méchants ? En vérité, mon frère, répondit Zarathoustra, c'est un trésor qui m'a été donné. Une petite vérité, voilà ce que je porte. Chez la femme, tout est une énigme, mais il y a un mot à cette énigme. Ce mot est grossesse. L'homme est pour la femme un moyen. Le but est toujours l'enfant. Mais qu'est la femme pour l'homme ? L'homme véritable veut deux choses, le danger et le jeu. C'est pourquoi il veut la femme, le jouet le plus dangereux. L'homme doit être élevé pour la guerre, et la femme pour le délassement du guerrier. Tout le reste est folie. Le guerrier n'aime les fruits trop doux. C'est pourquoi il aime la femme. Une saveur amère reste même à la femme la plus douce. Mieux que l'homme, la femme comprend les enfants, mais l'homme est plus enfant que la femme. Dans tout homme véritable se cache un enfant qui veut jouer. Allons, femme, découvrez-moi l'enfant dans l'homme. Que la femme soit un jouet pur et menu, pareil au diamant, rayonnant des vertus d'un monde qui n'est pas encore. Que l'éclat d'une étoile resplendisse dans votre amour, que votre espoir dise « Oh, que je mette au monde le surhumain !» Le bonheur de l'homme est « je veux », le bonheur de la femme est « il veut ». Voici, le monde vient d'être parfait. Ainsi pense toute femme qui obéit dans la plénitude de son amour. Et il faut que la femme obéisse et qu'elle trouve une profondeur à sa surface. L'âme de la femme est surface, une couche d'eau mobile et orageuse sur un bas fond. Mais l'âme de l'homme est profonde, son flot mugit dans les cavernes souterraines. La femme pressent la puissance de l'homme, mais elle ne la comprend pas. Alors la vieille femme me répondit « Zarathoustra a dit maintes choses gentilles, surtout pour celles qui sont assez jeunes pour les entendre. » Chose étrange, Zarathoustra connaît peu les femmes et pourtant il dit vrai quand il parle d'elles. Serait-ce parce que chez les femmes, nulle chose est impossible ? Et maintenant, reçois en récompense une petite vérité. Je suis assez vieille pour te la dire. Enveloppe-la bien et cloue-lui le bec. Autrement, elle criera trop fort, cette petite vérité. Donne-moi, femme, ta petite vérité, dis-je. Et voici ce que me dit la vieille femme. Tu vas chez les femmes, n'oublie pas le fouet. Ainsi parlait Zarathoustra.
Vous allez peut-être me démentir, Raphaël, mais à mes oreilles, ce texte est affreusement misogyne.
Affreusement misogyne. Oui et non. Oui en un premier sens, c'est-à-dire oui en surface ou en profondeur. Mais ce que je sais, c'est qu'il est une version ou une interprétation de ce texte qui le sauve de toute misogynie. Et d'ailleurs, l'enjeu n'est pas tellement de le sauver, mais de le creuser. Il faut d'abord en revenir un instant à la biographie de Nietzsche pour bien comprendre, je crois, enfin, non pas le sens de ce texte, mais l'un des sens de ce texte. Nietzsche dit donc, l'homme a beau s'étirer sur toute la longueur de sa connaissance, s'apparaître aussi objectivement qu'il voudra, le seul fruit qu'il en retire n'est jamais pour finir que sa propre biographie. Il dit ça dans Par-delà bien et le mal. Et c'est une phrase qui est mise en exergue, en épigraphe de la biographie du portrait que Lou Salomé consacre à Nietzsche. Et juste après, d'ailleurs, Lou exhume une lettre de Nietzsche qui lui dit « Ma chère Lou, votre idée de ramener les systèmes philosophiques aux actes personnels de leurs auteurs est vraiment l'idée d'une âme sœur. » Dont acte. Prenons cette idée au sérieux et appliquons à Nietzsche ce principe. Alors, il faut faire attention. Le principe de Nietzsche selon lequel le seul fruit que retire un philosophe de ses traités, ça n'est jamais que sa propre biographie et au fond, les grands systèmes philosophiques ne sont jamais que les confessions de son auteur. Dire cela, ce n'est pas réduire une œuvre aux conditions qui lui ont donné le jour, parce que rien ne serait plus réducteur. C'est comme dire « Hegel a édifié la science de la logique parce qu'il souffrait du choléra ». C'est stupide. Ou dire, Spinoza, dans la troisième partie de l'éthique, c'est dans la biographie qu'Alain Minc, je me souviens, consacré à Spinoza. Spinoza, dans la troisième partie de l'éthique, fait valoir les parties honteuses de l'être aimé qui se mélangent aux parties honteuses d'un autre être, et du coup, nous avons en haine l'autre aux parties honteuses duquel se mélangent les parties honteuses de l'être aimé, et on rattache ça. Certains biographes, pas seulement Minc d'ailleurs, rattachent ça à des déboires amoureux de Spinoza. C'est la lecture pour Sainte-Beuve de Nietzsche, si vous voulez. C'est tout à fait insuffisant. Rien n'est plus réducteur. Sinon, peut-être, la position inverse qui consiste à sacrifier la vie de l'auteur à l'œuvre qu'elle a engendrée et de considérer que nous n'avons plus rien à connaître des auteurs pour comprendre et épouser leur façon de penser. C'est Heidegger sur Aristote. Aristote, bon, il est né, il a vécu, il est mort. Genre, sa vie, on s'en fout. Voilà. C'est vraiment les deux écueils. Vous avez l'écueil biographique. Nietzsche écrit ça parce qu'il a souffert. Nietzsche écrit ça parce que si, parce que ça. Et on rattache tout à sa vie. Ou bien il y a la vie de Nietzsche. On s'en fiche, seul compte ses textes. Bon. Deux écueils. Que veut dire cette phrase, selon laquelle, donc, l'homme a beau s'étirer de toute la longueur de sa connaissance, le seul fruit qu'il en retire n'est jamais pour finir que sa propre biographie. C'est que quand on écrit de la philo, on parle de soi, ou plus exactement, au sens équivoque du terme, on part de soi. Mais quand on veut parler de soi, ou partir de soi, on divague toujours un peu. C'est la raison pour laquelle, du point de vue de Nietzsche, toute fiction est un aveu. Toute fiction est une façon de parler de soi. Et toute autobiographie est un masque. D'ailleurs, quand, par exemple, un livre à tiroir paraît, où certains personnages ou certaines ressemblances semblent ne pas être fortuites, les lecteurs, les journalistes s'émerveillent de constater que les personnages du roman sont les personnages réels qu'ils désignent, etc. Bien. Mais en revanche, dès que quelqu'un publie une biographie, les lecteurs et les journalistes s'attachent à montrer qu'en réalité ce qui est dit des personnages qui portent le même nom n'est pas ce qui s'est vraiment passé. Quand on nomme quelqu'un par son nom, les gens ont tendance à considérer que ça n'est pas de lui qu'on parle. Quand on nomme quelqu'un par un autre nom, un pseudonyme, un nom transparent, les gens ont tendance à dire « Ah ah, on lui donne un autre nom, mais en fait c'est de lui qu'on parle. » De sorte que donc toute fiction est aveu, et toute autobiographie est masque. Il est vain de parler de soi, mais il est impossible de parler d'autre chose. Si vous parlez de vous-même, vous passez à côté. Si vous parlez d'autre chose, c'est de vous que vous parlez. C'est ça, là, la difficulté du propos de Nietzsche. Paola ?
Oui, mais pour en revenir à ainsi parler à Zarathoustra et à ce qu'il dit des femmes, je voulais quand même remarquer qu'à la fin, la vieille femme lui dit « Si vous allez voir les femmes, n'oubliez pas votre fouet. » Et sans faire de la petite histoire, dans la photo où on voit... Lou, Paul Rey et Nietzsche, qui est-ce qui tient qui a une cravache dans les mains? C'est Lou Andréa Salomé.
Vous avez tout à fait raison de rappeler que Lou, Nietzsche et Paul Rey ont formé une sorte de ménage à trois. On ne va pas revenir sur les détails du ménage à trois ici. C'est un ménage à trois sans sexe, avec une femme qui refuse, en tout cas avec Nietzsche, le tout commerce sexuel. Et un ménage qui culmine dans l'ambition très éphémère de fonder une sorte de phalanstère, où chacun aurait sa place. Une ambition qui dissimule le fait que les attentes de chacun étaient contradictoires. On a beaucoup dit que Lou était manipulatrice. Le fait est que, le 5 mai 1882, Nietzsche propose à Lou une promenade sur les bords du lac d'Horta. Et sur l'autre rive du lac se dresse une colline verdoyante, le Monte Sacro. Et alors que l'excursion s'achève, Nietzsche et Lou, contre l'avis de leurs compagnons, décident de gravir cette colline et restent un peu trop longtemps, en tout cas au goût de la mer, offensés par l'inconvenance, et de Ré, qui lui est vexé par la jalousie, si vous voulez, de les imaginer tous les deux. On ne saura jamais ce qui s'est passé sur le Monte Sacro. Nietzsche écrira à Lou qu'il lui a dû ce jour-là le plus beau rêve de sa vie, et Lou confiera à l'un de ses amis à la fin de sa vie qu'elle ne sait plus si elle a embrassé ou non Nietzsche sur le Monte Sacro. Alors, retour de promenade, puis quelques jours plus tard, les amis se séparent, Nietzsche part à Bâle, puis ils se retrouvent mi-mai en Suisse, et Nietzsche prévoit à cet instant de faire à Lou une seconde demande en mariage, sans demander à Paul Rey de transmettre la demande, mais de la faire lui-même. Et alors que Rey attend à l'hôtel, Nietzsche se déclare à nouveau, et Lou, comme la première fois, refuse de l'épouser. Et c'est à la suite de cet épisode vaudevillesque que les trois amis se font photographier ensemble dans une mise en scène célèbre, dont on a beaucoup parlé, où les deux hommes, Nietzsche et Paul Rey, sont attelés à une charrette sur laquelle trône Lou, un fouet à la main. Et en arrière-fond, un décor représentant le Mont Vierge. De sorte que, chez Nietzsche, qui tient le fouet? C'est la femme. C'est-à-dire qui punit, ici? Qui fait la loi? C'est la femme. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur l'anecdote du fouet, mais elle permet de jeter quand même un autre regard sur les conseils de la vieille. Prends le fouet, ça veut dire quoi? Prends le fouet pour toi. Mieux vaut souffrir qu'être violent. Non parce que c'est mieux, mais parce que c'est plus intéressant. Et les choses ne sont pas ce qu'elles semblent. Et à la lumière de ça, je crois qu'on peut relire le texte de Zarathoustra depuis le début. Enfin, le relire, reparcourir certains passages qui ont l'air misogynes et qui sont, je crois, plus intéressants que ça. Pourquoi te glisses-tu furtivement dans le crépuscule, Zarathoustra, et que caches-tu avec tant de soin sous ton manteau? Est-ce un trésor que l'on t'a donné, un enfant qui t'est né? Ou bien vas-tu maintenant toi-même par les sentiers des voleurs, toi l'ami des méchants? En vérité, mon frère, répondit Zarathoustra, c'est un trésor qui m'a été donné, une petite vérité, voilà ce que je porte. Vous savez, Paola, qu'il y a un dialogue de Platon, le Phèdre, où Phèdre qui commence par l'arrivée de Phèdre, qui porte sous le manteau un manuscrit de Lysias, qui est en fait une sorte d'enfant mort-né. C'est l'enfant mort-né d'un texte écrit. Critique de Socrate de l'écriture, critique qu'il a en commun avec Nietzsche d'ailleurs. Les textes écrits répondent toujours la même chose aux questions qu'on leur pose. L'écriture pétrifie, vitrifie le réel. Le réel est d'une telle étoffe que l'écriture n'est pas en mesure de le saisir. Nietzsche et Platon partagent une sorte de mépris du langage, le sentiment que le langage vitrifie le monde. Ce sont tous les deux des maïeuticiens qui veulent donner le jour à un enfant viable, c'est-à-dire non plus l'enfant mort-né d'un texte écrit, mais l'enfant viable d'une pensée vive. Idée qu'il faut mettre en abîme, Paola, avec le fait que Zarathoustra est au fond le fils que Nietzsche n'a pas fait avec Lou. C'est l'enfant qu'il n'a pas eu avec Lou. Or, ce que Nietzsche appelle la pensée, ce qui est viable pour Nietzsche, l'enfant viable pour Nietzsche, c'est la pensée légère, c'est la pensée gracile. Pour Socrate, c'est le dialogue socratique. Pour Nietzsche, c'est la pensée vive, c'est ce qu'il appelle la petite vérité. Et au début du Main trop humain, qui est un texte qui précède le Par-delà bien et mal, et Zarathoustra, Nietzsche dit « C'est la marque d'une plus haute civilisation de faire des petites vérités discrètes qui ont été trouvées par une méthode sévère, plus d'estime que des erreurs bienfaisantes et éblouissantes qui dérivent d'âge et d'hommes métaphysiques et artistiques. » Vous voyez, Paola, les petites vérités dont parle Nietzsche sont à la fois les vérités de la philologie, c'est-à-dire les détails du philologue. Nietzsche était philologue, faut jamais l'oublier, ça. Donc les vérités de la philologie, chères à Nietzsche, mais aussi ces vérités qui doivent pourrir, dont parle Camus dans Nos, par exemple. C'est en cela que c'est un trésor. Ce que Zarathoustra porte sous le manteau, ce dont il est enceint, c'est une vérité périssable, et donc une vérité vivante. Du coup, dans le texte, souvenez-vous, à un moment, il dit « Chez la femme, tout est une énigme, mais il y a un mot à cette énigme, ce mot est grossesse. » Alors on se dit « Ce type est épouvantable, qu'est-ce que c'est que ces manières ?» Il y a un texte de Plotin comme ça qui dit que la femme n'est femme qu'une fois fécondée. C'est une infamie, je veux dire, au XXIe siècle, un texte comme ça n'a aucune raison d'être.
Mais c'est grotesque. La grossesse de la maïeutique.
Évidemment.
Bien sûr.
Si vous voulez, c'est fou ce que le goût du bien, parfois, rend bête. Et fait rater des choses fondamentales. C'est fou ce que le sentiment de détenir le bien dès qu'on n'est pas du côté de la misogynie, par exemple. C'est fou ce que les bons sentiments sont stupides et dangereux, parfois, en matière d'herméneutique même, d'interprétation des textes. Vraiment, un féministe ou une féministe standard lisant ce texte dit « Ce type est épouvantable, d'ailleurs c'était un impuissant, ça ne m'étonne pas, il est mort de la syphilis, bien fait pour sa gueule. » Mais en pratique, si on fait une autre interprétation de ce texte, beaucoup plus généreuse, et à la lumière de ce qu'on peut déduire des premières phrases et de l'analogie avec Platon, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve que la femme est grosse des petites vérités. Ça veut dire que la femme donne le jour à ce qu'elle n'est pas elle-même. La femme est le chemin du surhumain. Zarathoustra est une femme. La femme est l'être socratique par excellence. Elle permet de donner le jour. La femme est sage-femme. Un peu plus loin, il dit « Mieux que l'homme, la femme comprend les enfants, mais l'homme est plus enfant que la femme. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la femme est philosophe, la femme est maïeuticienne, l'homme est enfant, la femme est sage-femme. « Il faut, dit-il, que la femme obéisse et qu'elle trouve une profondeur à sa surface. L'âme de la femme est surface, une couche d'eau mobile et orageuse sur un bas-fond. » Là encore, le partisan du bon sentiment dit « Oui, il tient les femmes pour superficielles, volages, etc., etc., alors que les femmes sont capables de profondeur. » Bon, si j'ose dire. Et de s'indigner d'y voir un éloge de l'obéissance féminine. Ce serait trop simple. Pour Nietzsche, quand on est superficiel, c'est par profondeur qu'on est superficiel. Il y a trois façons de voir la couche d'eau mobile et orageuse sur un bas-fond. Un, c'est le résidu, genre les feuilles mortes à la surface de l'étang. Deux, c'est le témoignage des bas-fonds. La couche d'eau se ressent le chatoiement de la surface, se ressent des bas-fonds. Trois, l'aboutissement chez Nietzsche, et ça, on est totalement chez Nietzsche, d'une quête des profondeurs, débouche, si vous voulez, toute quête des profondeurs débouche, à la grande surprise du chercheur de vérité, à la surface même des choses. C'est par profondeur qu'on est superficiel chez Nietzsche. De sorte que la femme, en étant superficielle, accède à une profondeur bien supérieure à celui qui croit qu'il suffit de creuser un peu pour être profond. Et vous voyez, Paola, quand la vieille dit « Zarathoustra a dit maintes choses gentilles, surtout pour celles qui sont assez jeunes pour les entendre. » C'est quand même intéressant, c'est la vieille qui le dit. Elle. Donc qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que la jeunesse n'est pas une affaire d'âge. Ça veut dire que la jeunesse est aussi l'effet d'un rapport au monde et à ses petites vérités. La jeunesse, c'est l'art d'aimer ce qui ne dure pas, c'est-à-dire l'art d'aimer l'éternité, car je t'aime, ô éternité, c'est le plus beau passage de Zarathoustra. La jeunesse, c'est l'art d'aimer l'éternité. Et par là même, comme le dit Nietzsche plus tard dans une formule que Spinoza n'aurait pas reniée, de mettre en lumière la déraison des choses humaines sans s'en effaroucher. Et interpréter Nietzsche en lui appliquant le filtre débile du bien et du mal, le monde en noir et blanc, c'est immanquablement passer à côté, et en plus, pire que tout, en ayant bonne conscience.
La volonté du vrai, qui nous entraînera encore dans sombre d'entreprises périlleuses. Cette célèbre véracité dont jusqu'ici tous les philosophes ont parlé avec vénération, que de problèmes nous a-t-elle déjà posés ? Quels étranges et graves problèmes pleins d'équivoques ! C'est déjà une longue histoire, et pourtant, semble-t-il, elle vient tout juste de commencer. Quoi d'étonnant que finalement nous devenions méfiants, perdions patience et nous détournions, excédés ? Ce sphinx ne nous apprendra-t-il pas, à nous aussi, de notre côté, l'art d'interroger ? Qui est-ce, proprement, qui nous pose ici des questions ? Qu'est-ce qui, proprement, en nous, aspire à la vérité ? De fait, nous sommes longuement attardés à nous interroger sur la cause de ce vouloir, jusqu'à ce que, finalement, nous nous trouvions tout à fait en plan devant une question encore plus fondamentale. Nous nous interrogions sur la valeur de ce vouloir. Étant admis que nous voulons le vrai, pourquoi pas plutôt le non-vrai et l'incertitude, voire l'ignorance ? Le problème de la valeur de la vérité s'est dressé devant nous, ou est-ce nous qui l'avons rencontré sur notre chemin ? Qui de nous est Édipe, ici ? Qui est le sphinx ? C'est là, semble-t-il, un nœud de questions et de points d'interrogation. Et, le croira-t-on, nous finissons par penser que le problème n'a jamais été posé jusqu'à présent, que nous sommes les premiers à le voir, à le tenir sous notre regard, à l'oser. Car il comporte un risque, et peut-être n'en est-il de plus grand.
Nietzsche se propose de remettre en question la vérité, mais il dit être le premier. Et il le dit, il le clame, il dit être le premier. Et pourtant, est-ce que Socrate, lorsqu'il dit « ce que je sais, c'est que je ne sais rien », lorsque Descartes se propose de remettre en question lui aussi, est-ce que Nietzsche ne...
Alors, je ne suis pas sûr que Nietzsche soit effectivement le premier à faire la démarche qu'il prétend faire. Mais je ne suis pas sûr que ses précurseurs soient Socrate ou Descartes. Socrate entretient avec la vérité un rapport d'asymptote. On tend vers elle, mais on ne peut pas prétendre à la vérité. Ou plus exactement, on peut y prétendre peut-être au-delà, si vous voulez. Il entretient un rapport de tantale à la vérité, philosophia. Il est amoureux de la sagesse, autant dire qu'il en manque. Il n'a pas la sagesse dont il manque et qu'il aime pour cette raison.
Et Nietzsche ne manque pas de la vérité, c'est ça ?
C'est une autre affaire. La vérité, pour Socrate, est un aiguillon, c'est l'étoile du Nord. Pour Nietzsche, et se pose alors la question de savoir quel genre de bien absolu contient cette vérité pour que nous ne soyons pas capables d'y parvenir, mais qu'en même temps sa lumière nous oriente tout le temps de la vie. C'est la grande question de Platon. Du point de vue, question d'ailleurs qui va jusqu'à Kant, hein. Qu'est-ce que les lumières ? L'idée de la boussole, si vous voulez, de la boussole véridique, est une idée qui traverse les siècles en philosophie. Là où Nietzsche instaure une révolution, qu'on appelle la révolution généalogique, c'est que la question que se pose Nietzsche, ça n'est plus la question de savoir ce qu'est la vérité, mais d'où vient le besoin que nous en avons ? D'où vient le désir que
Donc,
nous en avons ?
Substituer qu'est-ce qui est vrai à qu'est-ce qui en nous veut le vrai.
Exactement. La question n'est plus de savoir ce qui est vrai. Or, cette question-là, Descartes se la pose. Je récuse tout ce qui est douteux ou tout ce qui n'est pas absolument certain pour essayer de voir ce qui résiste et qui demeure vrai. Cette question-là, Socrate se la pose en disant « je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». Mais cette question, la question de savoir d'où vient en nous le besoin que nous avons de vérité ou le désir que nous avons de vérité, c'est une question que Nietzsche pose et qu'avant Nietzsche, le premier à s'être posé, à mon avis, c'était Spinoza. Encore un point. Sur cette question-là, il faut bien comprendre la différence d'approche de Nietzsche. Il y a vraiment, on l'a déjà dit, il faut le redire, on ne le dira jamais assez dans cette émission, il y a deux façons de concevoir qu'en philosophie, les questions soient plus essentielles que les réponses. La première est de considérer qu'il y a au-delà de chaque réponse une question possible, que chaque phrase est la réponse à une question. Et que par conséquent, quoi que vous disiez, il y a toujours une question qui pourra intervenir à la suite de ça. En d'autres termes, nous n'en avons jamais fini avec la connaissance ou avec le désir de connaître. Nous ne connaîtrons jamais tout. Bien. Saine humilité du philosophe qui se prive de tout connaître et qui met en garde contre ceux qui, croyant tout connaître, impose à l'humanité une certaine idée qu'ils se font d'elle-même, etc., etc. Formidable. Bon. En cela, les questions sont plus essentielles que les réponses en philosophie, et c'est la grande valeur ajoutée de la philosophie. Bien. Mais il y a une autre façon de le considérer, qui est de dire que si les questions sont plus essentielles que les réponses, ça n'est pas parce que la réponse est toujours précédée d'une question, mais c'est parce que répondre, c'est beaucoup trop facile. C'est beaucoup trop simple. La vérité, à la limite, on sait ce que c'est. Mais c'est pas grand-chose, la vérité. Vous voyez, Deleuze est profondément nietzschéen, par exemple, quand il s'en prend à la bêtise, en expliquant que le problème de la bêtise, c'est pas le vrai ou le faux, parce qu'il y a des tas d'imbéciles qui disent vrai. Le problème de la bêtise, c'est la platitude. Et la vérité ne règle pas le problème de la platitude. Deleuze dit, dans les copies, on trouve des tas de trucs vrais. Mais c'est des choses d'une platitude insondable et d'un ennui absolu. C'est ça le problème de la vérité. Le problème de la vérité, c'est que la vérité, elle n'est pas hors d'atteinte. C'est qu'elle est trop facile. C'est que la réponse, elle est trop accessible. Et que, à cet égard, le véritable enjeu, c'est de questionner la réponse qu'on donne. C'est de questionner la vérité elle-même. Il ne s'agit pas de considérer que la vérité est hors d'atteinte. Il s'agit de considérer que la vérité, c'est peu de choses, c'est pas grand-chose. Et ça, c'est la révolution généalogique que Nietzsche propose. Généalogie, c'est-à-dire remplacer la question de savoir ce qu'est la vérité par la question de savoir d'où vient le désir qu'on en a. Et c'est une révolution considérable. Et effectivement, en cela, il dit « le problème de la valeur de la vérité s'est posé devant nous ». Oui, le problème de la valeur de la vérité s'est posé devant nous. Qui de nous est Œdipe ? Qui est le Sphinx ? Et si nous étions le Sphinx ? Et si, au fond, il ne fallait pas inverser les rôles ? Et si, au fond, le danger, ce n'était pas Œdipe lui-même ? Si, au fond, le danger, ce n'était pas Œdipe qui écrase l'énigme sous le poids d'une réponse univoque à la question du Sphinx ? Si le danger, si le véritable danger, ce n'était pas Œdipe. D'ailleurs, le plus dangereux des deux, c'est Œdipe, puisque c'est le Sphinx qui perd le combat. En un sens, Œdipe est plus fort que le Sphinx. Mais et si le danger, ce n'était pas Œdipe, et à travers lui d'ailleurs l'humanité, trop humaine, qui, consciente d'elle-même ou de sa singularité au sein du règne naturel, écrase le monde sous les dehors et sous les atours d'une vérité qu'elle voudrait être la vérité, alors qu'elle n'est jamais que la sienne. Qui de nous est Œdipe ? Qui est le Sphinx ? Soyons Sphinx. Donnons sa chance au Sphinx. C'est-à-dire, donnons sa chance aux énigmes. Ah, ne nous hâtons pas de considérer que les énigmes sont solubles dans des réponses. Donnons leur chance aux questions elles-mêmes, aux perplexités, aux incertitudes, aux doutes, aux interprétations que chaque énigme ouvre. Et il faut lire Nietzsche en nietzschéen. C'est-à-dire qu'il faut s'attarder sur ce qu'il dit comme sur autant d'énigmes. Ne cherchez pas de réponse chez Nietzsche. Cherchez un trépan qui travaille les questions, qui creuse les questions jusqu'à revenir à leur surface d'ailleurs. Faites l'expérience de ce vertige-là, c'est-à-dire de ce retournement permanent chez Nietzsche. Lire Nietzsche, c'est vraiment être dans une voiture qui fait des tonneaux, si vous voulez, sans fin, sans fin. Acceptons de nous laisser porter ou de nous laisser bousculer par la difficulté d'un rapport au monde qui en accepte l'énigme, qui refuse d'en dissoudre l'énigme. Acceptons de questionner la valeur de ce à quoi nous croyons jusqu'ici.
Il le dit dans le Gai Savoir et dans Par-delà le bien et le mal, faire de la philosophie, c'est chercher des points d'interrogation.
C'est chercher des points d'interrogation, toujours. On peut toujours mettre des points d'interrogation partout. C'est vraiment le contraire de Descartes. C'est le contraire de Descartes, pour le coup. C'est révoquer tout ce qui est certain. C'est se méfier de tout ce qui n'est pas douteux. Voilà. Descartes se méfie de tout ce qui n'est pas absolument certain. Nietzsche, en un sens, se méfie de tout ce qui n'est pas... Alors, je récuse le mot « absolument » parce que c'est un adverbe qui ne fait pas partie de son lexique, en définitive, puisqu'il n'est pas partisan de l'absolu. Puisque l'absolu, étymologiquement, c'est ce qui détache, c'est ce qui délie. Donc Nietzsche n'est pas dans cette déliaison qui lui permet de séparer les mondes, de séparer le corps et l'esprit, etc. Donc, laissons de côté le mot d'absolu. Mais alors que Descartes récuse tout ce qui n'est pas absolument certain, Nietzsche récuse tout ce qui n'est pas douteux, au fond, ou tout ce qui ne peut pas faire l'objet du doute. Et en définitive, il découvre derrière ça que tout peut faire l'objet du doute. Et alors, c'est l'objet, et c'est en cela que Nietzsche peut parler d'un risque. Ce risque si grand, les philosophes du peut-être dont il parle, ce sont ceux-là. Il est dans une position de prophète avec ça. Moi, ça m'a toujours ennuyé, le Nietzsche prophétique, qui dit « Je vois poindre au loin une nouvelle génération de philosophes ». J'ai l'impression d'entendre les nouveaux philosophes quand je lis ça. Ça m'énerve. Le côté « Peut-être, vous allez voir poindre au loin ces philosophes nouveaux, l'aurore nouvelle d'un philosophe qui saura se poser les vraies questions, etc. » Peu importe. C'est le rapport prophétique au monde. Il se vit comme le premier de son espèce, comme l'annonciateur de quelque chose. C'est pas le plus intéressant, je crois. Mais, en revanche, le généalogiste, c'est-à-dire celui du paragraphe 2, alors là, c'est un artiste indépassable.
Comment une chose pourrait-elle procéder de son contraire? Par exemple, la vérité de l'erreur. Ou la volonté du vrai de la volonté de tromper. Ou le désintéressement de l'égoïsme. Ou la pure et radieuse contemplation du sage de la convoitise. Une telle genèse est impossible. Qui fait ce rêve est un insensé. Ou pire encore. Les choses de plus haute valeur ne peuvent qu'avoir une autre origine, un fondement propre. Elles ne sauraient dériver de ce monde éphémère, trompeur, illusoire et vil, de ce tourbillon de vanité et d'appétit. C'est bien plutôt au sein de l'être, dans l'impérissable, dans le secret de Dieu, dans la chose en soi, que doit résider leur fondement et nulle part ailleurs. Ce genre de jugement constitue le préjugé typique auquel on reconnaît les métaphysiciens de tous les temps. Cette manière de poser les valeurs se décide à l'arrière-plan de toutes les déductions de leur logique. Fort de cette croyance, ils partent en quête de leur savoir, de ce qu'ils baptiseront solennellement en fin de compte, la vérité. La croyance fondamentale des métaphysiciens, c'est la croyance aux oppositions des valeurs. Quelques valeurs qu'il convienne d'attribuer à la vérité, à la véracité et au désintéressement. Il se pourrait qu'on dût attacher à l'apparence, à la volonté de tromper, à l'égoïsme et aux appétits une valeur plus haute et plus fondamentale pour toute vie. Il se pourrait même que ce qui constitue la valeur de ces choses bonnes et vénérées tient précisément au fait qu'elles s'apparentent, se mêlent et se confondent insidieusement avec des choses mauvaises et en apparence opposées, au fait que les unes et les autres sont peut-être de même nature. Peut-être. Mais qui se soucie de ces dangereux peut-être? Pour cela, il faudra attendre la venue d'une nouvelle race de philosophes. De philosophes dont les goûts et les penchants s'orienteront en sens inverse de ceux de leurs devanciers. Philosophes du dangereux peut-être, dans tous les sens du mot. Sérieusement, je vois poindre au loin ces philosophes nouveaux.
Vous avez souri en entendant le mot sérieusement, Paola. Pourquoi?
Mais parce que ça paraît presque ironique. Nietzsche n'est pas. Enfin, l'esprit de sérieux, c'est ce qu'il récuse tout le temps.
Alors, l'esprit de sérieux, c'est ce qu'il récuse parce que l'esprit de sérieux témoigne d'un manque de sérieux. L'esprit de sérieux, c'est l'esprit du type qui se prend au sérieux. C'est le type. Alors, moi, j'ai un peu l'impression que quand Nietzsche annonce l'aurore d'un philosophe nouveau, si vous voulez, il se prend lui-même au sérieux. Je ne suis pas sûr que ce soit le plus nietzschéen des moments, ça. Mais c'est une autre affaire. En tout cas, c'est amusant que vous souriez en disant ça, puisque lui-même reprend à son compte cet adverbe. Mais alors que c'est un adverbe qu'il devrait accoler au début du texte.
Mais oui, c'est un moment ce qu'il dit. De ce qu'ils baptiseront, en parlant des métaphysiciens, de ce qu'ils baptiseront solennellement, en fin de compte, la vérité.
Oui, ce texte génial, tout à fait génial, vraiment c'est un texte génial qu'on peut relire, alors là je le dis d'expérience, pendant des années, en y trouvant toujours, toujours, toujours quelque chose de nouveau, des pépites inédites. Ce texte fantastique, ce paragraphe 2 de Par-delà bien et mal, vraiment c'est du Nietzsche, c'est de la quintessence de Nietzsche si j'ose dire, c'est du diamant nietzschéen ça. Ce texte-là commence par une prosopopée des métaphysiciens de tous les temps. Tiens, il les fait parler, les métaphysiciens de tous les temps. Et les métaphysiciens de tous les temps, quand ils parlent, c'est avec un air de bon sens. Pas, ils disent, mais comment une chose pourrait poser de son contraire? Comment est-ce qu'il pourrait y avoir l'erreur au principe de la vérité? C'est comme s'il y avait le néant au principe de l'être. Comment est-ce que la volonté trompée pourrait être au départ de la volonté de vérité? Comment la convoitise pourrait-elle être derrière la pure et radieuse contemplation du sage? Une telle genèse est impossible. Qui fait ce rêve est un insensé ou pire encore. Les choses de plus haute valeur ne peuvent qu'avoir une autre origine, un fondement propre. Le bien ne peut pas venir du mal. C'est le préjugé des préjugés. Une toute petite remarque, Paola, avant d'entrer dans le texte lui-même, c'est que la première partie de Part de la bien et mal s'appelle Des préjugés des philosophes. Et effectivement, c'est un texte, enfin c'est tout un ensemble de textes, 23 paragraphes, dans lesquels il s'en prend à peu près à tout le monde. Tout le monde en prend pour son grade.
Spinoza.
Oui, Spinoza, qu'il tient pour un phtisique malhonnête. Les philosophes qui manquent de droiture, même Épicure en prend plein la figure. Les stoïciens, voilà.
Kant, n'en parlons pas.
On pourra en parler, d'ailleurs. Mais il applique à Kant, d'ailleurs, la méthode généalogique. Hein. Comment les jugements synthétiques, a priori, sont-ils possibles? C'est la grande question de Kant. Nietzsche dit, pourquoi la croyance en de tels jugements est-elle nécessaire? Ce qui suffit à déconstruire l'édifice. De quelle pathologie le symptôme Kant est-il le symptôme? Il fait la guerre à l'atomisme sous toutes ses formes, et en cela, Nietzsche n'est pas matérialiste. Très important. Il fait la guerre à l'atomisme et il repère l'atomisme chez les métaphysiciens eux-mêmes. Il fait la guerre à l'instinct de conservation, il fait la guerre même au sensualisme, encore que c'est peut-être ce qui l'épargne le plus. Il fait la guerre à Locke, il fait la guerre au théisme persistant de ceux qui remplacent Dieu par les lois de la nature. Bref, il fait la guerre. Bon. Mais il y a une chose, je crois, à comprendre, en tout cas qu'il faut garder présente à l'esprit dans cette première partie de Part de la bien et le mal, et qui est très importante pour comprendre Nietzsche, c'est le statut secondaire de la destruction chez Nietzsche. Nietzsche fait la guerre, mais au principe de la destruction chez Nietzsche, se trouve un amour. Il ne faut pas croire que la négation soit première chez Nietzsche. Ceux qui le pensent sont de deux catégories dans les interprètes nietzschéens. Et je crois que ce sont deux interprétations, non pas fausses, mais pauvres de Nietzsche. Les premiers, ce sont ceux qui vantent un Nietzsche libertaire, voire un Nietzsche de gauche, ce qui ne veut absolument rien dire, que les choses soient claires. Ça ne veut rien dire. Ou plus exactement, il n'y a pas plus pauvre comme interprétation, puisque c'est réduire Nietzsche au second stade du développement de la raison, ou du développement de la pensée, qui est le stade du lion, c'est-à-dire le stade de la révolte. Alors que la philosophie chez Nietzsche est d'abord, en premier lieu et en dernière instance, le fait de l'enfant. Vous avez chez Nietzsche le chameau qui porte le poids des valeurs esclaves, le lion qui se rebelle et l'enfant qui rétablit l'innocence du devenir. C'est notamment dans le Crépuscule des idoles qu'il dit ça. Ceux qui disent que Nietzsche commence par déconstruire les trucs, c'est les mêmes qui disent que Nietzsche se sert d'un marteau pour...
C'est ce qu'on l'avait dit à la toute première émission, il ne faut pas seulement voir le marteau qui frappe, qui déconstruit, mais on avait parlé du marteau du sculpteur ou du marteau du piano.
Du marteau du piano, du marteau du médecin, du marteau du sculpteur. Bien, Nietzsche est un créateur avant d'être un destructeur. Or, on ne peut pas créer sans détruire. N'importe quel sculpteur sait qu'il doit enlever de la matière, d'ailleurs il n'y a pas besoin d'être plotinien pour le savoir, hein. N'importe quel sculpteur sait qu'il faut enlever de la matière pour créer quelque chose, mais que l'intention de créer précède le geste destructeur du burin qui s'applique à la matière pour l'heure informe. Donc, le Nietzsche rebelle, si vous voulez, ou le Nietzsche de gauche, le Nietzsche pas content, le Nietzsche qui veut tout casser, est un Nietzsche secondaire, c'est un dommage collatéral du Nietzsche premier, c'est-à-dire du Nietzsche amoureux, de la réalité dans son ensemble. Autre, à mon avis, écueil de l'interprétation nietzschéenne qui verrait la négation comme principe premier, c'est que c'est tiré Nietzsche du côté de Hegel. Ça, c'est un autre lecteur de Nietzsche qui s'appelle Jean Granier. Jean Granier a toujours tiré l'interprétation nietzschéenne du côté de Hegel, de la pensée de Hegel, c'est-à-dire considérer que Nietzsche, au fond, reprenait, ne faisait que donner un tour un peu plus rock'n'roll, au fond, il ne le dit pas comme ça, mais à la dialectique hegelienne et au rôle du négatif. Je crois que c'est mal comprendre le fait que Nietzsche est d'abord, comme il le dit dans Le Gai Savoir, du côté de la mort fatie, et qu'il est, comme il le dit lui-même, le contraire d'un esprit négateur. C'est le contraire d'un esprit négateur qui s'en prend ici au préjugé des philosophes. S'il s'en prend au préjugé des philosophes, c'est d'abord par amour. Ça n'est pas par négation. Il s'agit pour lui de ne pas juger mais de comprendre, de mettre en lumière la déraison des choses humaines sans s'en effaroucher. Il s'en prend à tout le monde, mais la destruction n'est ici qu'un dommage collatéral. Le dommage collatéral d'un amour sans pitié et impitoyable pour la vérité ou ce qu'il en reste. Et alors, là-dessus, Nietzsche fait valoir, alors pour vous donner un exemple de ça, il s'en prend aux métaphysiciens. Bon, qu'il fait parler en disant, ben voilà, les métaphysiciens, c'est ceux qui ne mélangent pas. Bien. Alors, il s'en prend à eux. Et il dit, ça c'est un préjugé des métaphysiciens. Mais quand on a ce texte-là, il faut par exemple avoir en tête un passage de Zarathoustra dans lequel Nietzsche vante la solidarité des contradictoires. Il dit « Vous avez souhaité le retour de toute chose, toute revenant de nouveau, toute éternelle, enchaînée, enchevêtrée, amoureusement liée. C'est ainsi que vous avez aimé le monde. » Vous voyez, si Nietzsche s'en prend à ceux qui séparent le bien et le mal, ou qui regardent le monde en noir et blanc, par exemple, si Nietzsche s'en prend aux manichéens, et si on ne peut pas être manichéen et nietzschéen à la fois, c'est parce que Nietzsche défend, et en cela il est platonicien, l'idée d'un entre-là, l'idée d'un enchevêtrement. Et cette idée d'entre-là, d'enchevêtrement, est au principe de la déconstruction qu'il propose des préjugés des philosophes. Ça, c'est le premier point. C'est très important. Et le reproche qu'il fait à la pensée métaphysique, c'est de méconnaître cette dimension fondamentale de l'être, qui est donc le mélange.
Donc au dualisme, il faut substituer, je sais pas, un continuum, un entre-là, c'est ça ?
Un entre-là plus qu'un continuum. Je ne crois pas qu'il y ait de... Enfin, un continuisme nietzschéen, disons, il n'y a pas de solution de continuité chez Nietzsche entre les différents éléments du réel. Je pense que l'idée de mélange telle qu'il la thématise, c'est magnifique. Je n'ai pas le passage là sous les yeux dans Humain trop humain, par exemple. L'idée de mélange est fondamentale. Parce que c'est un mélange... Nietzsche est un lecteur de Montaigne. Et dans le chapitre de Montaigne sur l'amitié, Montaigne parlant de la Boétie, on parlera un jour de ce chapitre dans Le Gai Savoir ou ailleurs, c'est le chapitre 28 du livre 1 des Essais. Il dit avec la Boétie, c'est le fameux passage où il dit « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Avant d'en venir à cet alexandrin, « parce que c'était lui, parce que c'était moi », Montaigne dit « nous étions si proches l'un de l'autre qu'on ne retrouvait même plus la couture qui nous avait joints l'un à l'autre ». En d'autres termes, ils sont complètement mélangés, l'un et l'autre. Ils sont tellement proches qu'ils ne font plus de différence entre les deux. Et tout cela culmine avec « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». C'est-à-dire le retour d'une séparation totale. C'est le grand paradoxe du mélange. Le mélange, c'est ce qui permet à chacun de s'affirmer comme différent de l'autre. Et c'est cette complexité du mélange.
C'est l'inverse de la fusion.
Oui, c'est l'inverse de la fusion. C'est l'inverse de la fusion. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en termes de rapports humains, Nietzsche n'est jamais dans la fusion, même pas avec Lou. La petite Russe, comme il dit, et qu'il aime tellement. La petite Russe, c'est son âme sœur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable de partager sa solitude. Non pas de se mêler à sa solitude, mais, comment dire, de construire avec lui un duo de solitude. Alors, il y a aussi une grande trouvaille chez Nietzsche, hein, dans le paragraphe 2, là. Enfin, elle est partout, mais elle est exemplaire, là. C'est la critique de ce qu'on a appelé le dualisme moral. C'est-à-dire que le dualisme moral, c'est très simple à comprendre, et c'est d'autant plus simple à comprendre qu'on fonctionne tous un peu comme ça. Dualisme, il y a le vrai, il y a le faux. Bon. Et puis, derrière ce dualisme-là, il y a un autre dualisme moral. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a le blanc, il y a le noir. Et ainsi de suite. Et nous sommes tous assez spontanément d'accord avec ça, si vous voulez. C'est une tendance naturelle. C'est comme une seconde nature chez nous, une première nature peut-être. On voit bien le monde en noir et blanc, si vous voulez. C'est même assez naturel. Les deux faiblesses du dualisme moral, c'est l'identification exorbitante du vrai au bien et c'est la moralisation des phénomènes. C'est le fait de considérer que les choses ont une valeur en soi. Or, les choses n'ont pas de valeur séparément de l'interprétation qu'on en propose. Un meurtre n'est pas un mal absolu. Un crime n'est pas un mal absolu. Un geste charitable, généreux, magnifique, n'est pas un bien absolu non plus. C'est en cela que les choses sont mélangées, justement. C'est de cette manière-là. La critique du dualisme moral est la critique d'une trouvaille, au fond. Nietzsche a compris que Nietzsche fait une symptomatologie de Platon. Platon prétend chercher la vérité. Nietzsche découvre que derrière la vérité, d'ailleurs Platon le dit lui-même, c'est le bien qu'il recherche. Donc, il comprend de quelle pathologie le désir de vérité est le symptôme. C'est le désir de bien. Et repérant cela, il s'aperçoit que dans le monde de Platon, il y a du bien, il y a du mal. Ce qui n'est pas vrai non plus. Hein. Parce que la critique que fait Nietzsche de Platon est assez sommaire de temps en temps. C'est un Platon bien caricaturé, bien réduit. Et il y a des tas de Nietzschéens qui, n'ayant lu Platon qu'à travers Nietzsche, ont un Platon de foire, un Platon de comédie, un Platon du dimanche, un Platon qui sépare la réalité en deux mondes. Alors que chez Platon, les choses sont mélangées, là aussi. Nietzsche est beaucoup plus platonicien qu'on ne pense. Mais voyez, il y a un passage, on en a parlé dans les Méditations métaphysiques de Descartes, où il dit « De là vient que je me trompe et que je pêche ». Un passage que Descartes s'est repenti d'avoir écrit. C'est le moment où il moralise l'erreur. Il transforme l'erreur en péché. Et là, on a l'axe, justement, du dualisme moral. Là, vous comprenez, un œil nietzschéen, un œil un peu aguerri, ne peut pas laisser passer ça. Et repère là qu'il y a quelque chose qui coince. Mais pour illustrer même la pensée de Nietzsche, voir à quel point la pensée de Nietzsche est pertinente, il faut bien comprendre que, en face de chaque réalité, le dualisme s'attache à dissocier le négatif et le positif, le bien et le mal, pour restaurer l'idéal d'un règne originel immaculé. Or, une telle dissociation, dit Nietzsche, est l'expression d'un instinct, d'une pulsion. Enfin, c'est la première chose, une pulsion en général, anémiée d'ailleurs. Enfin, bon. Deux, c'est l'instinct et la pulsion qui sont les premières victimes d'une dissociation de cette nature. En gros, Socrate est un médecin, mais c'est un médecin qui pratique l'ablation testiculaire, si vous voulez. C'est un médecin qui châtre. C'est comme ça qu'il soigne. Et il faut bien... Alors, dans la pratique, pour illustrer ce que dit Nietzsche, je crois qu'il suffit de prendre tous ces moments où, au nom du bien ou au nom de l'idéal, on n'hésite pas, pour assurer le triomphe du bien, à utiliser toutes les ressources du mal. C'est par exemple, à l'heure où on enregistre cette émission, il y a une campagne de pub pour la propreté de Paris. Dans les, vous savez, sur les bus, etc., etc., il y a des tas d'affiches. Et alors, c'est des affiches ignobles où vous voyez un vieux frigidaire pourri dans une forêt, par exemple. On dit, voilà, c'est dégueulasse, et ben, vous n'avez pas le droit de faire ça non plus dans la rue. C'est sale dans une forêt, c'est sale dans une rue. Bon. Ce sont des affiches épouvantables. Le record de l'épouvante est atteint par les paquets de cigarettes, où on vous montre des espèces de colliers de lasagne dégueulasse d'un cancéreux en couverture des paquets de cigarettes. On dit que les cigarettes rendent impuissants. Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand on lutte pour le bien, on a tous les droits. Quand on défend la morale, le mal est immédiatement autorisé. On peut s'en servir comme d'un moyen. C'est ce que le défenseur du bien, tout à ses bons sentiments, refuse de voir. Et c'est ce qu'il y a de toxique dans de telles campagnes. Imaginez une campagne contre l'excision, ça prendrait quelle forme? Qu'est-ce qu'on montrerait? Ou une campagne contre les viols d'enfants, ça prendrait quelle forme sur les murs de Paris? Vous voyez, quand on défend le bien, tous les moyens sont permis. C'est ce genre de choses que Nietzsche permet de remarquer. Il faut vraiment, et c'est en cela que faire valoir le mélange contre l'absolu est une façon pour Nietzsche de renverser la perspective qu'on doit porter sur le bien et sur le mal, c'est-à-dire de remplacer ça par un jeu de perspective, justement.
Après avoir assez longtemps lu entre les lignes des philosophes et épié tout leur tour et détour, j'en arrive à la conclusion que la majeure partie de la pensée consciente doit être imputée aux activités instinctives. S'agit-il même de la pensée philosophique? Sur ce chapitre, nous devons réviser nos jugements, comme nous avons dû les réviser en matière d'hérédité et de qualité innée. De même que le fait de la naissance ne tient aucune place dans l'ensemble du processus de l'hérédité, de même la conscience ne s'oppose jamais à l'instinct d'une manière décisive. Pour l'essentiel, la pensée consciente d'un philosophe est secrètement guidée par des instincts qui l'entraînent de force dans des chemins déterminés. À l'arrière-plan aussi de toute la logique et de son apparente liberté de mouvement, se dressent des évaluations ou, pour parler plus clairement, des exigences physiologiques qui visent à conserver un certain mode de vie. On affirme par exemple que le déterminé a plus de valeur que l'indéterminé ou que l'apparence vaut moins que la vérité. Mais quel que soit pour nous la valeur normative de pareilles appréciations, il se pourrait qu'elles ne soient que des jugements superficiels, une sorte particulière de niaiserie, celle justement que peut réclamer la conservation d'individus de notre espèce. À supposer tout au moins que l'homme ne soit pas la mesure des choses.
Vous vous rendez compte qu'on est presque au terme de l'émission, là, Paola, et qu'on en est au paragraphe 3 de Par de là bien et mal, et qu'il y en a 23 dans la première partie, et que nous n'avons fait que survoler le second. Ceci soit dit pour que nos auditeurs mesurent l'insondable richesse de textes comme cela, et qu'au moins cette émission ait valeur, non pas prophétique, si vous voulez, mais que ça permette au moins d'éveiller chez quelques auditeurs la curiosité d'y voir, le goût d'aller y voir et de faire par eux-mêmes ce chemin abyssal, ce parcours qui est si déstabilisant dans la lecture de Nietzsche et en même temps si amusant. Un point sur ce paragraphe, puisqu'on est presque au terme de l'émission, et qui est quand même important, c'est que c'est une des formulations les plus éloquentes de l'idée d'inconscient. C'est à bon droit que Nietzsche sera élu parmi les philosophes du soupçon, au même titre que Freud et Marx par le grand Michel Foucault. C'est à bon droit que Nietzsche est un philosophe du soupçon. Non pas philosophe du soupçon au sens où il est celui qui soupçonne toujours quelque chose sous les apparences, ça c'est le métaphysicien converti en théoricien du complot au XXIe siècle. Non, philosophe du soupçon, c'est celui qui, justement, par goût de la profondeur. Lutte contre les tentations normatives, exactement. Lutte contre les tentations normatives et lutte contre, disons, là où nous croyons que nous pensons ou que nous sommes l'origine de nos pensées, Nietzsche fait valoir, non pas un arrière-monde, mais un arrière-fond de pulsions, d'intentions, un mélange. Il y a par exemple un passage dans Par-delà bien et mal où il s'en prend à l'idée de sujet, à l'idée de substance. Tout ce qu'il y a derrière un « je », tout ce qu'il y a derrière celui qui dit « je pense ». Nietzsche est le premier à dire « ça pense » derrière « je pense ». Ce n'est pas du tout Lacan qui l'a inventé, c'est Nietzsche. Mais ce qui est important ici, il faut bien comprendre, vous avez bien fait de noter que la pensée de Nietzsche n'était pas normative, on va finir là-dessus. Philosopher en généalogiste, ça n'est pas tenir la fausseté d'un jugement pour une objection contre ce jugement, c'est s'intéresser aux raisons qui nous font tenir un jugement faux pour vrai. Bon. Ou prendre la vérité pour un absolu, ce qui fait de la vérité un mensonge. Bien. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça n'est pas défendre telle ou telle position contre telle autre. C'est en ça que Nietzsche ne peut être le militant d'aucune cause. Mais c'est s'interroger sur le désir que nous avons de tenir telle cause pour une valeur non négociable. Et là où Nietzsche n'est pas normatif, c'est qu'il fait l'histoire de la tentation normative en chacun de nous. Et pour ce faire, il a besoin de raconter la façon dont la pensée consciente chez un philosophe est secrètement menée par ses instincts et, comme il dit, forcée à suivre une voie tracée. Il est l'élève de Spinoza. Pour Spinoza, le premier gain de liberté, c'est la découverte que derrière le libre arbitre, il y a tout un monde de pulsions qui nous détermine, ou plus exactement que le sentiment du libre arbitre naît de l'ignorance des causes réelles qui nous font agir. Il est l'élève de Spinoza à cet instant-là, et surtout dans l'idée que c'est un gain de liberté que de le comprendre. Comprendre ça, c'est-à-dire rompre avec l'illusion de notre propre liberté, l'illusion que nous sommes l'origine de nos actes, c'est être encore plus libre qu'avant. C'est un gain de liberté que de découvrir ce qui nous aliène. Il ne s'agit pas d'être normatif, de défendre une position contre une autre, mais de faire passer chaque élément du réel au scialytique, au scalpel. S'il y a une norme chez Nietzsche, c'est peut-être le refus de transiger avec le goût d'avoir des illusions qu'on a commodément maquillées en désir de vérité.
Et oui, Raphaël, mais je pense laisser la défense à Nietzsche au reproche que vous lui faites, parce que tout début du paragraphe 22, il dit « Qu'on le pardonne au vieux philologue que je suis et qui ne peut renoncer au malin plaisir de mettre le doigt sur les mauvaises interprétations. »
C'est drôle que vous citiez ce paragraphe, on va vraiment finir cette émission, mais c'est à la fin de ce paragraphe, il dit, c'est le paragraphe 22.
Oui,
et à la fin de ce paragraphe, il dit « À supposer que tout ne soit qu'interprétation, ce que je dis là est aussi une interprétation, n'est-ce pas ? Eh bien, tant mieux !» C'est-à-dire que non seulement ce qu'il dit n'est pas la vérité, mais c'est une interprétation, mais surtout il s'applique à lui-même. La règle selon laquelle il n'y a pas de vérité, mais il n'y a que des interprétations.
Merci Raphaël, merci à tous. C'est la fin du Gai Savoir pour aujourd'hui. Une émission que vous pouvez retrouver en ligne dès maintenant et pour quelques années sur notre site, à la page du Gai Savoir. Merci à François Connac, à Michel Mestre à la technique et à Alice Ramon, notre attachée de production. La philosophie continue toute la semaine sur France Culture avec les nouveaux chemins de la connaissance qui vous parlent d'Alain Badiou avec Alain Badiou tous les jours de 10h à 11h. Sur France Culture, tout de suite Frédéric Taddeï.